Welcome to Radio Campus.
Welcome to Radio Campus Air.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche la tuerie au palais de la Syrie.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer, partout où il se rend, l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, dans À Bâton Rompu, magazine d'info tous les mardis à 19h. De 19 à 20h même, et tous les deuxièmes mardis chaque mois, les amis du monde diplomatique d'Orléans viennent nous présenter le diplôme du mois en cours. Ce mardi, pour leur rentrée, parce que le mois dernier, nous n'avons pas pu faire d'émission, pour la rentrée, les amis du monde diplomatique ont décidé de nous parler d'articles non seulement dans le diplôme d'octobre, mais aussi dans les éditions de septembre et d'août. Bonsoir Pierre.
Bonsoir, je ne voulais pas qu'on oublie quelques articles du mois d'août, effectivement.
Ainsi pour toi, l'édition d'octobre n'a aucun sens.
Oh, c'est pas du tout ce que j'ai dit.
C'est pas du tout ce que je voulais dire. Oui, en tout cas, oui, on aurait eu tort de nous passer de l'article dont tu vas nous parler au mois d'août.
Oui.
C'est un article pour le mois d'août.
Délicieux.
Voilà, délicieux, mais vraiment, on ne vous dit que ça. Bonsoir Boris.
Bonsoir.
Boris, un article du mois de septembre.
Septembre.
Tu nous parleras des putschs, et c'est vrai que c'est un article très important.
De nos ex-colonies, oui.
Absolument. Et puis, Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Victor est à la page. Tu aurais pu garder l'article que tu avais choisi.
Ah oui, mais moi je fais mes devoirs correctement. C'est vrai, du coup, j'ai pris un article du mois d'octobre résonne dans l'actualité.
Mais vous allez voir en plus qui résonne avec l'actualité. Le titre de l'article, c'est « Fronde historique en Israël ». Tu vas nous en parler dès le début de cette émission. Après, Henri, bonsoir Henri.
Bonsoir à tous.
Il y a donc cet article, la Fronde historique en Israël, mais d'autres articles, comment tu dis déjà, riches.
Eh oui, il est riche ce diplôme. C'est peut-être pour ça que certains ont du mal à choisir entre le diplôme d'août, de septembre ou dernier d'octobre. Parce que c'est sûr que je vous assure vraiment, ce diplôme du mois d'octobre est riche. Alors, comme d'habitude, dans le diplôme, il y a des articles qui intéresse beaucoup nos problèmes franco-français, même si ça va un peu au-delà, et aussi donc des articles à l'international. Sur le, encore une fois, je ne vais pas citer tous les articles de ce diplôme du mois d'octobre, mais je voulais quand même évoquer celui de Aurélien Bernier, électricité, une inflation délibérée. En effet, on nous parle beaucoup d'inflation en ce moment sur les produits alimentaires, mais pas que. Et on s'aperçoit que, eh bien, au niveau de la France, on dépend aussi de beaucoup de décisions qui sont prises au niveau européen, qui font que on a l'impression que les consommateurs risquent de devenir les dindons de la farce avec la libéralisation de ce secteur. Parce qu'il faut savoir que depuis cette libéralisation donc, de la production et de la fourniture, on le voit tous, on a de nouveaux opérateurs qui arrivent sur le marché, soi-disant en concurrence, mais parfois on a du mal à voir les bienfaits de la concurrence, notamment au niveau, encore une fois, des consommateurs. L'Union européenne rêve d'un marché unique, y compris dans ce domaine-là, mais le réseau électrique n'est pas facile à gérer au niveau de tout le continent, puisqu'il y a des contraintes techniques, des contraintes de production. Évidemment, la consommation n'est pas la même tout au long de l'année et tout au long de la journée. C'est-à-dire que, par exemple, en France, quand il y a une consommation relativement faible, eh bien, l'éolien, le solaire, l'hydraulique et le nucléaire suffisent quasi à couvrir tous les besoins. Mais en période de pointe, on fait donc appel à des pollueurs plus importants, c'est-à-dire des centrales au fioul ou au gaz ou au charbon qui redémarrent et qui viennent compléter et la consommation. Et tout ça, c'est souvent l'énergie la plus chère qui détermine le prix. Donc le consommateur, encore une fois, est un peu lésé dans ce deal-là. Et la France est un peu isolée au niveau européen lorsqu'elle veut faire valoir ses intérêts. La ministre, Mme Agnès Pannier-Runacher, a proposé un certain nombre de révisions, mais tout ça n'est pas vraiment accepté par les partenaires européens. On veut aussi toujours nous pister avec les fameux compteurs Linky, hein, qui sont dits communicants ou intelligents, mais enfin qui viennent aussi déterminer quelles sont les heures de pointe de consommation, et qui un peu nous espionnent quelque part. Donc, c'est là encore, on a du mal à voir l'apport de l'Europe à ce niveau-là, qui fait que Aurélien Bernier en vient à cette conclusion, c'est que les opérateurs privés et leurs tuteurs bruxellois réussissent un tour de force, dégrader le service, augmenter les prix, reporter l'essentiel du risque sur les plus fragiles, tout en récoltant d'importants bénéfices.
Absolument.
À savoir.
À noter que Aurélien Bernier, je l'ai entendu sur une radio, pas concurrente parce qu'on ne joue pas dans la même division. En tout cas, super intéressant parce que l'article dans le diplôme est tiré d'un livre qui est sorti début octobre, qui s'appelle « L'énergie hors de prix, les dessous de la crise ». C'est aux éditions de l'Atelier. Et je m'étais promis de l'acheter. Donc voilà, il est très très intéressant.
Alors, dans nos problèmes domestiques, mais qui vont au-delà des frontières, il y a aussi un article très intéressant à Alan Poplar, L'armée miroir d'une France sans boussole. Oui. Alors effectivement, on y lit des choses très intéressantes dans cet article. C'est qu'en 60 ans, la France a pris part à des grandes expéditions, et plus de 30 grandes expéditions militaires, et au moins 100... opération de moins grande ampleur. Et selon beaucoup d'observateurs, seuls les USA ont fait plus. Et donc, petit à petit, on a vu l'armée française perdre des soldats. On est passé de 453 000 militaires en 1991 à 203 000 en 2021. Alors c'est vrai qu'on a vécu la période de la fin de la guerre froide. Et avec la dissuasion nucléaire, on pensait qu'on était tranquille. Et Laurent Fabius, alors à ce moment-là, président de l'Assemblée nationale, disait qu'il était temps de toucher les dividendes de la paix. Alors, c'est vrai que donc, il y a moins de militaires, moins d'armées. À la limite, c'est pas pour nous déplaire. Mais on s'est aperçu avec le conflit russo-ukrainien, qu'il y avait donc quand même des soucis et que c'était très difficile de rattraper un certain nombre de choses, parce qu'il faut savoir aussi qu'au niveau de l'armement, il y a de plus en plus une privatisation de cette industrie-là.
Absolument.
Et qu'on dépend des commandes qui sont faites par les pays, les autres pays. Et puis, on se retrouve un petit peu démuni en matériel actuellement. Donc c'est assez intéressant de voir cette évolution de l'armée française à la lumière du conflit ukraino-russe. Dans les articles après qui s'orientent plutôt vers le monde, vers l'extérieur, il y a un article extrêmement intéressant d'Aboubacar Jamaï, les dessous d'une fâcherie franco-marocaine. Oui. Très intéressant aussi, hein, on en a à nouveau entendu parler au gré de malheureux épisodes en Méditerranée, des migrants qui sont morts en nombre. Et donc, on se demande pourquoi ces deux pays se sont fâchés, surtout que à la suite de du tremblement de terre qui a causé au moins 3000 morts au Maroc et des milliers de blessés et des dizaines de milliers de sans-abri, la France a proposé son aide et on a été remercié. Donc, camouflet diplomatique et autres pour la France et pour Emmanuel Macron qui pensait qu'on lui ouvrirait les portes quand même à cette occasion-là. Alors c'est vrai que ce qui a déplu aussi au niveau des autorités marocaines, c'est que Emmanuel Macron s'est permis de s'adresser directement aux Marocains. Et il faudrait lui dire que c'est plus une colonie quand même, hein, qu'on n'est pas vraiment chez nous.
Il y a des gens qui essayent, mais je crois qu'il n'écoute personne.
C'est peut-être une petite nostalgie. Et donc, du coup, on camouflait, je le disais, pour la France, puisque des aides ont été acceptées, mais des Émirats arabes unis, de l'Espagne, du Qatar et de la Grande-Bretagne, mais pas de la France. Alors, pourquoi on est fâché? Eh bien, il y a évidemment le sort, depuis longtemps d'ailleurs, du Sahara occidental. Tout à fait, oui. Il y a eu aussi, donc je parlais de migrants, la question de la délivrance des visas aux Marocains, qui évidemment est un gros sujet de tension entre les deux pays. C'est vrai que, comme le dit Aboubacar Jamaï dans son article, les Marocains sont moins durs avec, par exemple, les USA, alors là, ça va peut-être changer avec les derniers événements tragiques que nous venons de connaître, et l'action du Hamas, mais le Maroc a reconnu, a redonné vie à ses relations, pas que diplomatiques d'ailleurs, avec Israël.
Oui, tout à fait.
Et donc ça avait, alors que son opinion public, alors que les Marocains, dans une grande majorité, sont plutôt pro-palestiniens. Donc ça va faire encore un sujet de discorde, si besoin en était. Et donc, pour le coup, c'est vrai que la France dit que les gens qui habitent le Sahara peuvent décider eux-mêmes de leur sort via des élections, ce qui est plutôt censé comme attitude. D'ailleurs, c'est la position de l'Algérie. Mais évidemment, le Maroc ne veut pas reconnaître cette issue diplomatique-là.
Justement parce que c'est la position de l'Algérie et que la France défend. C'est, je pense que une grosse partie de la fâcherie vient de là, le Sahara occidental.
On peut pas soutenir et l'Algérie et le Maroc. De toute façon, si on en prend un, on se fâche avec l'autre.
Et oui, voilà. C'est très, très difficile de marier les deux. Voilà. Autre petit... Alors, c'est l'ironie de l'histoire. Un autre petit sujet qui fâche, c'est-à-dire que les Marocains, pour le compte des Israéliens, et via le logiciel Pegasus, ont donc espionné des hommes politiques français, y compris le président Macron. Alors, ils devraient peut-être utiliser Pegasus pour autre chose, vu ce qui vient de se passer dans le pays.
J'y pensais pas.
C'est assez fabuleux parce que dans son article, l'auteur dit bien les Marocains travailleraient en sous-main pour Israël. Il faudrait peut-être qu'ils mettent les micros ailleurs.
C'est ça.
Apparemment. Néanmoins, l'auteur de l'article nous rassure. On ne va pas rompre toute relation avec le Maroc puisqu'il y a des échanges économiques importants. Il y a une grande communauté marocaine en France, et d'ailleurs qui abonde, qui envoie pas mal d'argent, des transferts de fonds, via des transferts de fonds dans le pays. Et c'est 32% de ces transferts viennent de France, justement. Aider les familles, oui, c'est très conséquent. Donc dans les articles de ce diplo à l'international, je trouve qu'il y a... Mais je ne vais peut-être pas trop prendre de temps à laisser la parole à mes camarades. Mais il y a un article...
C'est Victor, il trépigne, je le vois.
Il trépigne. Je les sens trépigner.
Ah, tu le sens.
Puis alors après, il s'agace et c'est pas bon.
C'est pas bon.
Non. Donc je voulais quand même citer un article sur l'Argentine. En Argentine, la droite rugit, mais innove peu.
Très intéressant article,
parce qu'il y a des élections qui arrivent là, le 22 octobre, je crois.
C'est ça.
Et donc, ce qui est assez saisissant pour ce pays, c'est qu'ils ont le choix entre deux droites. Alors, pour résumer, la formule est assez... Ils ont le choix entre le néolibéralisme autoritaire...
Oui. C'est ça.
Ou l'autoritarisme néolibéral.
C'est ça.
Il faudra qu'on m'explique si c'est choisir entre la peste et le choléra.
Absolument. En fait. Absolument.
Je ne sais pas. Alors, c'est assez fabuleux. Ils ont un dénommé Milei.
Voilà, un fou.
Monsieur...
Un fou.
Un dingo. Alors, un disciple de... On dirait un disciple de Trump et de Bolsonaro.
Il est pire. En fait, il est libertarien plus plus.
Antiféministe.
Les premières décisions, ça va être contre les LGBTQ, on dit, Victor.
Ouais. QIA plus.
Voilà. Et surtout, le gros truc qu'il a sorti, c'est une fois que je serai élu, nous aurons comme monnaie le dollar. Et j'ai lu une tribune là de plein d'économistes argentins, chiliens, qui expliquent aujourd'hui comment ça serait une folie, quoi. Mais il est sûr, et en plus, ce type va gagner.
Ah bon ?
Ce qui est dingue, c'est qu'il...
est en tête des primaires.
Il est en tête. Et il stagne, il est toujours en tête depuis 3-4 mois.
Alors lui, il est un peu rock'n'roll. Et sa colistière, enfin sa coupe, ce qui serait sa coprésidente... C'est Madame Victoria Villarruel. Et alors elle est opposée à l'avortement.
C'est ça.
Et elle prône la famille traditionnelle.
Absolument.
Donc on se dit, mais c'est pas possible, que c'est quand même un grand pays. C'est au point d'être un grand pays que ça me fait un lien avec l'article de Martine Bullard, quand le Sud s'affirme.
Absolument.
Et dans son article, Martine Bullard nous précise que les BRICS ont accueilli dernièrement, c'était le 24 août, en Afrique du Sud, 4 nouveaux membres, l'Arabie Saoudite, l'Argentine justement, l'Égypte, et 6 nouveaux membres, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. L'Algérie est restée sur le palier. Bon. Et alors donc, souvent, ces BRICS n'étaient pas très pris au sérieux parce qu'elles étaient menées quand même par la Russie, qui a quelques soucis internationaux actuellement, menées par la Chine et l'Inde. Et la Chine et l'Inde, ils sont pas en bon terme. Quoi. Ils guerroient régulièrement dans l'Himalaya. Et donc, les BRICS n'étaient pas très pris au sérieux, mais en fait, ils se structurent. En gros, parce que ce qui est assez cocasse, c'est que les BRICS, le sommet des BRICS a eu lieu donc en Afrique du Sud, comme je le disais, le 24 août, et celui du G20 le 10 septembre. Alors le G20 est plus occidentalisé, bien sûr, et il y a les États-Unis, la France et tout ça. Et donc ces pays font valoir quand même qu'ils poursuivent eux aussi leurs propres intérêts. Donc des fois ils sont copains avec l'un, et puis des fois copains avec l'autre. Ça dépend. Mais ils refusent de choisir, et c'est peut-être la nouvelle diplomatie aussi, ils refusent de choisir entre des États-Unis, nous dit Martine Bullard, des États-Unis essentiels à leur sécurité et une Chine essentielle à leur prospérité.
Tout à fait.
Et c'est là qu'on doit se dire qu'il faut faire avec. Voilà.
Mais ce qui est intéressant avec les BRICS, et pour moi ça s'arrête là, parce que je ne pense pas que ça marchera, c'est qu'ils essaient de faire ce qu'on appelle le Sud global, mais tant de gens ont rêvé de ça. Il y a eu les non-alignés à un moment, il y avait une force politique quand même là-dedans. Aujourd'hui, avec les BRICS, il y a une force économique, évidemment, avec la Chine, même le Brésil dedans aussi. Mais simplement, c'est qu'il y a trop d'intérêts divergents, notamment, tu l'as rappelé, entre la Chine et l'Inde, pour que ça marche.
Et puis quand même aussi, on en appréciera toute la saveur. Dans cet article, Martine Bullard donc, parle également du G20. Et notamment, M. Biden avait proposé de créer un corridor plus sûr pour les denrées, pour le numérique, tout ça. Et pour éviter donc, de passer par la Russie ou l'Ukraine qui sont en guerre. Et donc, on devait relier l'Inde à l'Europe via Israël.
Israël.
Et voilà.
Ils sont en train de travailler sur un autre... Non ?
Là, ils cherchent encore une autre route.
Oui.
ce qu'ils disent peut-être par les Esquimaux, il y aura moins de problèmes.
Bah, c'est ça. Et on dit essaye encore.
Donc j'ai pas eu le temps de parler de tous les articles. Il y en a notamment un article très intéressant sur l'emprise croissante des milices en Irak. Hein, c'est pas pour plagier ce cher Karl Marx, mais l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye, hein, c'est bien connu. Et donc, eh ben, ils refont des bonnes milices du temps de Saddam Hussein. Ils étaient un peu nostalgiques. C'est un article très intéressant aussi d'Adel Bakawan, qui est à lire dans ce diplo. Et il y en a quelques autres tout aussi intéressants. Je ne comprends pas que Pierre n'en ait pas trouvé un.
Lisez le diplo. Si d'ailleurs, je vais te donner la parole. Une seconde. Anaïs ?
Oui.
Anaïs est étudiante. Elle veut faire du journalisme. Dans l'émission, hein, on accueille des étudiants et étudiantes qui passent et qui veulent... Est-ce que tu lis le diplo ?
Non.
Ah, pourquoi ?
Mais Anaïs, tu ne vas pas pouvoir rester.
C'est ça. Et pourquoi ? Non, c'est vrai que c'est une vraie question.
Parce que je ne connaissais pas.
Tu ne connaissais pas ?
Aujourd'hui.
D'accord. Bon, bah, très bien. On espère t'amener à la lecture du diplo. Parce qu'en plus, c'est ton accès gratuit. Dans les différentes bibliothèques, et vous l'avez sur par ordinateur, vous êtes abonné automatiquement, les étudiants.
Okay.
Je le sais, on avait fait une action
Donc Anaïs, le prochain mois on compte sur toi, tu nous présenteras un article.
Voilà, tu lis un article et tu viens nous le présenter. Dans un instant on va partir vers Israël et Victor nous en parlera, mais avant un peu de musique avec ce morceau qui m'est tombé dessus. Enfin, là, pendant quelques temps, j'étais un peu dans mon canapé. Dolly Parton, la reine de la country music, sort un album là bientôt, à la fin du mois d'octobre. Et elle veut faire du rock. Parce que voilà, elle en a marre qu'on dise que la country, c'est pour les rednecks. Et elle a invité sur son album, alors j'ai la liste là devant moi. Alors, bah elle peut, hein, là, de l'argent. Sting, Steve Perry, John Fogerty, Kid Rock, Steven Tyler, Stevie Nicks, Peter Frampton, Fleetwood Mac, ouais, Debbie Harry, John Jett, Elton John. Et sur ce qu'on va écouter, elle prend son téléphone, elle appelle Paul McCartney, les deux Beatles qui restent. Hein. Paul McCartney et Ringo Starr, il dit « Oh, j'aimerais bien reprendre Let It Be ». Et McCartney fait « Ça tombe bien, j'ai les droits ». Eh bien, c'est cool, viens dans mon studio avec moi. Et amène, et là, ça donne ça. Je trouve ça superbe, en tout cas. À bâton rompu jusqu'à 20h. Merci de nous accompagner.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
L'album va s'appeler Rockstar, il sort exactement le 22, je crois le 22 octobre. Il comprendra 30 titres. Imaginez l'album de 30 titres dont 21 reprises dans celle-ci et 9 chansons originales quand même. On attend avec impatience le prochain album de Dolly Parton. Ça tombe bien, j'en avais pas beaucoup. Je vous dis, la country et moi, c'était... Je sais pas si vous aimiez. Vous aimiez bien la country music ?
Ah, ça dépend, quel type de country. Est-ce que t'as de la country type bluegrass, etc., qui est très redneck, ouais. Qui justement est très pro-Trump, très pro-américaine, ouais, pro-armée, etc. Ouais, et t'as de la country qui est vraiment restée genre populiste, entre guillemets, genre proche des classes populaires, ouais. etc. et tout, et qui véhicule encore des images de résistance, de genre les Chicks, par exemple, ouais. sont anciennement Dixie Chicks.
Ah, tu t'y connais, mais j'aimerais bien que tu me racontes un peu, parce que je vais te dire un peu pourquoi. Quoi, je n'aime pas la country, hein, je suis basique. Il n'y a pas de grande star noire dans la country. Quoi.
Ah bah oui. Ah.
Je me dis, c'est une musique pour les blancs. Et en plus, après, j'ai appris qu'ils étaient très militaristes. Et puis, de plus en plus, mm-hmm. là, les derniers temps, très trompistes. Et là, je me suis dit, c'est pas une musique pour moi. Quoi,
mais, oui, bien voilà. sûr. Mais...
À bâton rompu, la suite.
À bâton rompu, avec Hassan Kerim.
Et avec Victor, Israël, dans l'actualité, vous le savez, hein, la guerre, l'agression contre le Hamas, la réplique d'Israël. Mais cet article ne parle pas exactement de...
Non, il est antérieur aux attaques du Hamas, en fait.
Mais du coup, on a oublié maintenant que pendant combien de mois, 3, 4 mois, 6 mois même, mm-hmm. il y avait des gens dans la rue et plein de gens, tous les soirs... contre la politique de Benjamin Netanyahu.
C'est
et l'article parle de ça.
Exactement. C'est Front d'Historique en Israël par Charles Anderlin. Ça fait écho en fait à un article qu'on avait déjà vu il y a quelques mois justement qui parlait de la réforme constitutionnelle que proposait Benjamin Netanyahu avec une refonte du système judiciaire qui permettrait en fait aux élus d'échapper à la justice en fait en créant des cours de justice exceptionnelle gérés par le Parlement en fait. Bon, après, dit comme ça, ça fait très dictatorial, mais on a ça en France aussi. Hein. La Cour de justice, la Cour de justice de la République juge les pairs, les députés et les sénateurs pour des affaires, enfin, pas pour les affaires criminelles, mais pour des affaires autres. Voilà, donc ils voulaient faire une refonte du système judiciaire sur ce truc-là. Alors, ça a déclenché une grande vague de manifestations. La contestation ne désemplissait pas. Depuis tous les samedis soirs à Israël, à Jérusalem, pardon, il y a des manifestations, des slogans qui sont portés, des drapeaux palestiniens, etc. et tout. Et on appelle à la démission de Netanyahou et à l'abrogation de cette loi. C'est une loi qui a quand même réussi à réveiller l'élite laïque d'Israël, comme on parle dans l'article. Il y a pas mal de patrons, d'avocats, de juristes, d'économistes, etc., qui se sont dressés contre cette loi.
Autant de gens qui ne sont pas allés voter à l'élection d'avant, ce qui a permis l'élection de Benjamin Netanyahou, le Likoud, qui n'est pas l'extrême droite, il faut le dire. Et puis surtout, il faut rappeler, hein, Israël est une démocratie, parce que là, il y a un vote. Oui. Mais l'extrême droite a gagné avec Netanyahou. Donc voilà, et tous ces gens qui n'avaient pas voté se sont mis à aller dans la rue.
Mm-hmm. Attention, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Voilà, merci, j'allais le dire. Merci Henri. Voilà.
Du coup, ils sont réunis dans une association. Alors, je m'excuse par avance, je ne parle pas hébreu. Ofshim Be'Artzenu, donc Libre dans notre patrie, qui est une association qui cherche à promouvoir la constitution de 1948 telle qu'elle avait été rédigée par Ben Gourion, c'est-à-dire une constitution très libérale, respect des droits humains, liberté de culte, etc. et tout. Et elle a réussi à agréger plusieurs milliers de personnes autour de cette association. Il y a eu 130 associations locales et 140 associations nationales qui ont rejoint le mouvement. Elle a un budget de plusieurs millions de shekels. Donc voilà, et elle essaye du coup de faire progresser les idées libérales, etc. Et elle s'opposait notamment à cette loi de Benjamin Netanyahou. L'armée n'est pas exclue, même si elle est critiquée, l'armée n'est pas du tout exclue de ces mouvements-là, qu'elle appartient, il y a beaucoup de réservistes qui en fait ont suspendu leur service militaire de façon service militaire temporaire, mais à des proportions qui sont quand même assez dingues. Il dit dans l'article qu'il y a 60% des pilotes actuellement qui sont en grève et qui refusent du coup de participer. Donc ça, c'était avant l'annonce du conflit, donc je ne sais pas si depuis ils n'ont pas revu leur position.
Et mais en tout cas, ça explique, j'ai lu dans le Haaretz il y a 3 jours, que ça explique aussi pourquoi le Hamas a pu rentrer, parce qu'il y a, sur cette partie où ils sont passés, il y avait énormément de militaires qui n'étaient pas là,
d'accord,
qui avaient refusé de reprendre leur service et qui sont contre Netanyahou.
Mm-hmm.
Voilà.
Donc bien évidemment, il y a des accusations très tristes de la part du gouvernement. Mais c'est quand même la contestation a quand même bien infiltré l'armée. Le 25 mars, alors Yoav Golan, le ministre de la Défense de l'époque, avait appelé le gouvernement à faire machine arrière sur cette loi-là pour limiter les contestations qu'il y avait dans l'armée. Oui. De suite, il a été limogé par Benjamin Netanyahou, ce qui a déclenché des manifestations absolument massives, encore pire que ce qu'il y avait jusque-là de la part de la société civile. Et donc, du coup, Benjamin Netanyahou a fait machine arrière et a réinstitué Yoav Golan dans ses fonctions, et du coup, il est toujours ministre de la Défense.
Et il dit des conneries.
Ah, ça, c'est possible.
Moi, je dirais tout à l'heure, oui, c'est lui qui dit que nous sommes en train de nous battre contre des animaux.
J'ai vu cette déclaration.
Et qui a envoyé les premiers avions bombarder des immeubles, et qui a dit encore hier. Je m'en fous des otages, allez-y. Ils sont tous dingues.
Continue,
ils sont dingues.
Globalement, l'article finit sur le fait que une observation comme quoi l'Israël est en train de lentement descendre vers une dictature. Pourquoi ? Parce que, en plus de cette réforme constitutionnelle qui rendrait les élus du parti majoritaire intouchables par la justice, il y a un projet de loi visant les télévisions et la presse qui devrait être mis sous la surveillance d'un comité géré par l'exécutif.
Oui, c'est ça.
Donc ça rappelle les bonnes heures du gaullisme et de certaines dictatures. La mise sous cocon de la télé et de la presse. Et il y a aussi le développement d'un vaste programme de reconnaissance faciale qui serait adapté du coup aux caméras de sécurité en Israël. Donc voilà, ça finit sur une note qui est plutôt négative. Quelque chose que je voudrais rajouter à cet article, c'est qu'en fait, les attaques par le Hamas d'Israël, c'est du pain béni pour Netanyahou. Parce que, en fait, les contestataires, du coup, risquent fort de devenir le prochain ennemi intérieur à abattre par le truc. Je me rappelle d'une vidéo, du coup, Benjamin Netanyahou appelait un gouvernement d'union nationale, quand même, à cause de la menace terroriste. Et ça va souder la majorité et ça va faire en sorte que la contestation devienne de plus en plus difficile au sein des frontières d'Israël. Donc pour ça, ça me...
Ne le répète pas, je pense la même chose que toi. J'ose pas trop le dire trop fort, parce que dès que on dit ça, on dit... il n'aime pas les juifs. Non, j'aime pas Netanyahou, les gens. En fait, et on a eu une information dans la presse africaine, en tout cas celle en France, nous l'avons publiée hier sur LSI Africa. Il y a 10 jours, le ministère égyptien de l'Intérieur a téléphoné, le ministre a téléphoné personnellement à Netanyahou. Attention, c'est bizarre. Et l'Égypte voit tout ce qui se passe à Gaza. Il y a des trucs bizarres qui se passent, faites gaffe. Et ils n'ont pas eu de réponse. Et donc l'Égypte dit, on est quand même assez étonné qu'il n'ait pas réagi. Mais non, mais moi je comprends pourquoi. Et je suis assez d'accord avec toi. Voilà.
Oui, c'est vrai que on est très, très vite taxé d'antisémite si on prend certains propos. Mais justement, dans le monde daté d'aujourd'hui, il y a un article de Elie Barnavi qui est ambassadeur en France. Il parle lui-même de son propre pays. Il parle d'une politique israélienne imbécile.
Oui, c'est exactement le mot.
Et donc, il y a l'atrocité de l'attaque. Et on craint maintenant pour l'atrocité de la réplique.
La réplique, qui a commencé.
Et c'est vrai, comme le disait à l'instant Victor, c'est dommage que ce mouvement populaire qui voulait affronter cette réforme que donnait Netanyahou, maintenant c'est l'Union nationale, et puis ils sont obligés sont eux aussi en guerre.
Et en plus l'Union internationale, parce que là plus personne n'ose dire du mal de Netanyahou, donc c'est comme disent les jeunes, c'est quoi, sectionique tout. Là, voilà, vas-y, envoie les
applaudissements. Mais ça va quand même très très loin, parce que moi, je me rappelle, enfin, je vais sur YouTube et je reçois des pubs du gouvernement israélien disant, oui... ah oui, j'en ai eu sur YouTube des pubs qui disaient, oui, des terroristes palestiniens ont égorgé des femmes et des enfants, nous répliquerons avec la force pour défendre Israël et tout le peuple juif, etc. Enfin, j'ai vraiment eu des pubs là-dessus sur YouTube, alors que je regardais des vidéos d'ASMR ou je sais pas quoi, quoi, donc c'est quand même...
Mon Dieu, assez dingue. Mon Dieu, si tu existes, protège-nous.
À bâton rompu, le magazine de l'actualité Alter International.
Nous partons maintenant vers l'Afrique avec Boris, avec le... Oui, c'est comment on dit, un coup d'État, il y avait quoi les mots qui revenaient souvent, c'était épidémie, contagion.
Oui,
après,
voilà.
Après, il y a eu donc évidemment le Mali, il y a le Burkina Faso,
Guinée, Mali, Niger,
et Gabon.
Et le Gabon qui est arrivé après que Madame Anne-Cécile Robert ait écrit cet article.
Voilà, absolument. Voilà.
Donc elle a été rattrapée aussi par l'actualité.
Et bien, elle explique bien pourquoi tous ces putschs en Afrique.
Et puis, c'est une complexité. Elle explique, mais franchement, il n'y a pas de fil conducteur, en fait. C'est que des cas différents, parce qu'il n'y a pas que dans ces quatre pays-là.
Bon,
on ne parle pas de la Libye, on ne parle pas de la Tunisie, on pourrait aussi parler de la Guinée, à Conakry, quand même. Il y a des militaires qui ont destitué le président, qui avait, entre guillemets, spolié un troisième mandat.
Oui, c'est ça. Le président guinéen était... Là, c'était le... comment ils appellent ça, l'Assemblée générale des Nations Unies, où tous les présidents passent parler. Le président guinéen, c'est ce qu'il dit, il fait « Oui, mais vous nous reprochez d'avoir fait un coup d'État, mais qui est-ce qui est le putschiste ? Est-ce que c'est nous ou c'est le gars qui essaie de voler un troisième mandat ?» Oui, que répondre à ça ?
Non, mais en Guinée, il n'y a pas eu de putsch. Bon, ils ont destitué le président, puis ça s'est arrêté là.
Il n'y a pas eu de mort, rien.
Donc, on parle de succession de putsch depuis 2020 dans quatre pays, avec le Gabon. Pour le chercheur Ivan Guichaoua, on est en face à un mouvement populiste. Les putschistes dénoncent les ingérences étrangères.
Voilà,
ça, c'est facile. Et puis ils ont raison à partir du moment où ils accueillent maintenant les Chinois et Wagner. Parce que peut-être aussi qu'il faudrait se poser cette question-là. Mais l'influence russe et l'impérialisme français n'expliquent pas tout. Est-ce la déstabilisation du Sahel qui explique cette épidémie ? Et le Gabon, dans tout ça, il n'est pas dans le Sahel. Et puis on a vu qu'en Guinée, il n'y a pas eu de problème de djihadistes. N'est-ce pas qu'un putsch pour refuser un modèle démocratique dit occidental et donc un rapprochement avec la Russie ? Voilà. Et le rejet de la France ne doit pas faire oublier la montée en puissance des USA, de la Chine et de la Russie. Parce qu'on l'oublie, on parle toujours des Russes et puis des Chinois. Mais les Américains, ils sont en train de mettre leurs bottes là-dedans.
Le Niger, ils sont très contents du départ des Français. Ils ont, là, depuis que la France a décidé de rapatrier les troupes, il y a eu deux délégations officielles qui sont arrivées. Ils ont quand même dit que, on accepte, c'est un putsch. Mais par contre, il faut quand même, les intérêts des Américains sont en jeu. Donc on y va.
Et la menace djihadiste aussi sert d'argument et de justificatif à ces putschs. On a dit, la France avec ses militaires n'a pas réussi, même s'il y a eu quelques résultats, mais ils n'ont pas réussi à juguler le djihadisme. Donc on se sépare de la France et on va faire nous-mêmes notre politique d'intervention. En fait, ces pays sont face à un grave problème. Comment parvenir à une forme de démocratie quand on dépend tant de l'extérieur ? Et il faut aussi prendre en compte l'installation des djihadistes suite à leur défaite en Syrie et en Irak, qui ont rétabli un semblant d'ordre et de justice, justice sur les décombres de ces différents États, qui recoupent trois États aux limitrophes de la frontière. On a connu cela lors de l'établissement de l'État islamiste qu'on a appelé le califat. Attention, la gouvernance djihadiste repose sur la terreur et l'absence de services publics. Et la France dans tout ça. Bon, l'objectif sécuritaire, avec la présence de l'armée, même avec certains résultats, je viens de le dire, n'a pas suffi. Un état de guerre permanent avec des troupes étrangères, françaises en l'occurrence, n'est plus bien vu. Et on reproche à la France, avec raison, une certaine forme d'arrogance. Voilà. La France, nous, on sait comment faire, on vient pour régler le problème. C'est peut-être pas le discours qu'il fallait tenir. Le Sahel au sahélien qui a justifié aussi en partie ces putschs. Donc la France symbolise un ordre international hors sol et inefficace. On pourrait parler même de modèle occidental. Ça sert à un rapprochement avec la Chine, bien entendu, avec la milice Wagner. L'échec de la lutte, entre guillemets, antiterroriste, est donc imputé à la communauté internationale assimilée à un Occident qui décline. Et ça, c'est un peu partout en Asie, en Asie et en Afrique.
Oui, c'est vrai.
L'influence occidentale est mise en déroute. Bon, l'aspect économique dans tout ça, s'il est vrai que ces pays, Gabon compris, disposent de ressources minières importantes, et s'il est vrai que quasiment peu de ces ressources sont transformées sur place, on ne peut pas toujours reprocher à ces pays cet état de fait. Les précédents gouvernements n'ont pas eu ou peu agi pour créer des infrastructures industrielles, préférant un enrichissement personnel à eux et à leur clan ou tribu. Il y a longtemps qu'on le dit... bon, c'est le géologue qui parle. Les ressources minières servent pas grand-chose si on ne les transforme pas. C'est la valeur ajoutée qui compte. Gabon, capitale Libreville, ressources forestières et pétrole et fer, devrait être un pays riche, sauf que le pourcentage de pauvres reste très élevé alors que l'indice de développement économique est le deuxième d'Afrique grâce au pétrole. Dominé depuis 1967 par la famille Bongo, donc Omar Bongo avait instauré le monopartisme avec la création du Parti démocratique gabonais. Là aussi, on peut jouer sur les mots. Donc, quelques décennies de pouvoir familial et clanique. Niger, capitale Niamey. Alors ça, c'est important pour les Français. Je vais vous montrer pourquoi. De 60 à 74, gouverné par le président Diori dans un système de parti civil unique.
Oui, absolument. Ouais.
De 74 à 87, coup d'État du lieutenant-colonel Kounchier, qui va diriger le pays avec les militaires jusqu'à sa mort en 87. Son chef d'état-major lui succède, promulgue une nouvelle constitution et décide d'élections générales pour élire le président et l'Assemblée. Attention, le 1er décembre 89, les élections se déroulent sous l'égide ou dans le cadre d'un parti unique, le Mouvement national pour la société du développement. Donc, pourquoi des élections par rapport à un parti unique? On peut se poser la question. Sauf que peut-être avoir un peu plus de 100% de résultats.
Ben, c'est ça. Hein, c'est ça. Hein.
Son leader, soutenu par les militaires, Ali Saïbou, est élu sans opposition, avec, ils n'ont pas réussi, 95,1% des voix, et donc les 93 sièges de l'Assemblée. Voilà. Puis, trouble d'hiver jusqu'en 93, où Mahamane Ousmane est élu après une élection considérée comme démocratique. Bon, je vous passe la suite parce que ce serait trop long. Hein, voilà. Voilà le genre d'exemple qui montre que dans ces pays-là, on ne peut pas avoir de modèle pour expliquer ce qui se passe.
En tout cas, les gens ne le croient pas. C'est-à-dire que Draman, je crois que la première élection d'un civil a débouché sur un conflit, mais vraiment très fort, très dur, avec son Premier ministre, qui après
qui briguait la poste, et qui l'a eu.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires sont arrivés, ils ont dit à la population, regardez, nous, on met l'ordre.
Voilà.
Donc voilà, comme Kounché avait pris le pouvoir, et Kounché était un très bon président, il faut le dire. Moi, je n'aime pas les militaires au pouvoir, je n'aime pas les coups d'État, mais Séni Kounché a été un très bon président au Niger. Il est mort de sa propre belle mort, voilà. Mais derrière, l'armée n'était pas préparée.
Non, non.
Donc voilà, il y a eu Sébou.
Oui.
Ali Sébou, voilà. Ouais. Bref, la blague. Mais voilà, et les civils, quand l'armée a rendu le pouvoir... Eh ben, ils se sont entretués, en fait. L'armée est revenue. Regardez, nous, on met l'ordre. Et puis, c'est ça qui fait que la population se dit, mais oui, mais regardez, quand l'armée est là, ça va mieux.
Ben oui.
Malgré tout.
Ben oui, l'armée met les gens en prison, donc il n'y a plus de contestation. Alors, je disais, pourquoi le Niger est important pour la France? C'est quand même le tiers de notre uranium.
Oui, c'est ça.
Voilà. C'est pour ça que les Russes guignent, les Russes, les Chinois et les Américains guignent sur cette ressource uranifère.
Évidemment. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Bon, parce que c'est pas nouveau, ces putschs. Bon, à l'indépendance, au début des années 60, bon, il y a juste la Guinée qui a refusé l'aide française. Mais très vite, par exemple, y a eu... à Madagascar, où on avait mis un président, un ancien général de l'armée française, qui est un colonel Didier Raxirac, qui l'a foutu dehors. Oui. Et depuis, Madagascar, c'est devenu le pays le plus pauvre du monde. Ce qui est aussi bizarre, c'est que c'est tout le temps des colonels qui sont à l'origine des putsch. On se demande ce que font les commandants ou les généraux. Ben, on pourrait se poser la question, c'est peut-être une école hein, où, ils en, où on apprend à faire le putsch.
Moi, je sais. Ils mangent du zébu, ils boivent du champagne. Ils font des méchouilles de zébu et boivent du champagne.
L'Afrique est face à un dilemme, c'est-à-dire qu'elle cherche une personnalité, quoi. Elle est coincée entre le modèle occidental, de nouveaux modèles qui viennent, qui sont pro-chinois, pro-russes. Ils ont besoin d'une identité. On s'est moqué de Bokassa quand il est devenu empereur, mais Bokassa, il avait essayé quelque chose. Bon, c'est vrai, tout le monde a rigolé, mais il se rendait compte que ce qui se passait dans tous ces pays africains n'allait pas.
Et le problème, bon, pour revenir au Niger et donner encore une fois mon point de vue, désolé, mais j'ai ça au cœur. Je connais deux personnes dans le... parmi les putschistes, ce sont des analphabètes, des vauriens. Ils ont fait ce coup d'État parce que le président civil qui était au Niger, malgré tout, il a fait des choses, il a contré les djihadistes qui arrivaient quand même, malgré qu'ils ne soient pas de l'armée. Même tous, notamment ceux que je connais, nous disaient à nous journalistes, eh ben, le gars, on ne croyait pas qu'il allait y arriver. Il y arrive, c'est pas mal. Et tout d'un coup, il commence à faire de l'ordre, mais il fait de l'ordre dans la banque, dans les sociétés d'État où ces militaires ont des actifs et il commence à vouloir mettre d'autres personnes. Et le jour où il annonce ça, le lendemain, il y a le coup d'État. Et pour rester au pouvoir, ils savent très bien, ces gens-là, que comme au Burkina Faso ou au Mali, de dire que c'est la faute de la France, ça marche.
Ah oui, ça marche.
On en est là, donc ce sont des escrocs, qu'on ne me dise pas que ce sont des gens qui veulent du bien du Niger. Non. Je n'ai qu'une envie, c'est que la CEDEAO se bouge le cul et aille les virer de là.
Ben oui, mais la CEDEAO, déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux.
S'il y a un copain qui me dit « Ouais, tu veux qu'il y ait des morts ?»« Ouais, mais allez, alors !»
Moi, j'ai connu ces quatre pays-là en tant que géologue, dans les années 90. C'était une super ambiance, quoi. Il faut voir comment ça s'est dégradé. Alors qu'à l'époque, la France-Afrique, c'était quelque chose de colossal. Il y a quand même le monsieur Afrique qui était accueilli comme un président, avec les honneurs militaires et tout. Et il allait dire, faut faire ci, faut faire ça. Et pourtant, la France, on était sur un piédestal.
Moi, je ne dis pas que la France devrait rester en Afrique, parce que c'est pas, Emmanuel Macron a compris ça trop tard, je pense. Il faut qu'elle dise que la coopération se fait de toute façon, on se respecte, on est
voilà.
Mais par contre, et dire aussi la vérité, c'est que au Mali, quand Barkhane est parti, depuis, il y a des attentats
tous les jours, c'est de pire en pire.
Et le pire, c'est que l'armée française est partie, elle a laissé des armements à l'armée, à la FAMA, l'armée malienne. Et tous les jours, nous, dans la presse africaine, notamment en France, nous recevons des vidéos, parce qu'ils nous les envoient. Regardez ce qu'on a fait dans le camp. Et tous les armements français, les djihadistes les reprennent. Parce qu'en plus, ces gens-là, ils sont pas courageux, quoi. Ils ont peur de tout, quoi.
Oui, et puis il faut dire qu'ils rejettent le modèle français, mais en ce moment, ben, on sait que Wagner est en train de pratiquer un pillage systématique de toutes les richesses. Vraiment systématique.
Il faut rajouter aussi ça, la place de Wagner et des Russes qui ne feront pas grand-chose non plus, parce que... Mais ils sont là, pour l'instant, ils récupèrent pas mal d'argent, d'ailleurs.
Oui,
Et si on parlait de haricots, maintenant?
Un peu de légèreté dans ce monde de brut.
Voilà, juste après le jingle.
Abattons rompus, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis, de 19h à 20h.
C'est maintenant. Pierre, alors...
Zébu et champagne, moi, j'avais envie de dire. J'ai plus soif. On va pas
remettre. Il va falloir que je la remplace, celle-ci.
Il va falloir... Je voulais vous parler, moi, un peu de légèreté, parce que je trouvais que le diplôme du mois d'août, il était très léger. Et comme j'ai eu du mal, peut-être, à faire ma rentrée... Henri, excuse-moi. Du coup, je vous propose un petit florilège. Je ne sais pas combien de temps il reste, si j'ai le temps, si je n'ai pas le temps.
On a un peu plus d'un quart d'heure, même.
Ah, bah alors, ça va aller.
Et derrière, je crois que Raidon vient de m'annoncer qu'il ne serait pas là. Donc, on pourra déborder un tout petit peu.
Donc... je voulais vous présenter un petit florilège d'articles, en fait légers, parce que c'est vrai que là, mes camarades, ils m'ont pavé la route avec leurs articles. Là, les miens vont paraître très, très légers. Il y a notamment un article où je vais vous en proposer trois. Il y en a un, c'est juste... je vous propose juste de le titre, le sous-titre, et d'y aller. C'est un point de vue, justement, monde diplomatiste, où c'est Hassan qui me l'a dit tout à l'heure, tu me l'as dit, c'est une prof de yoga qui écrit un article, mais absolument délicieux, sur « Est-ce que le yoga est bon pour la santé ?» Voilà, c'est pas une question que les bobos se posent. En tout cas, normalement, non.
Tu veux qu'on y réponde ou pas?
Oui, bien sûr, on va juste donner une petite réponse. La réponse, c'est...
Bah non.
Non.
Bah non, ça se saurait. Enfin, bon, ouais.
Parce que les... L'argument, c'est de dire que depuis que les DRH dans les entreprises se sont emparés du yoga, eh ben voilà, c'est un petit peu pas le yoga du départ qu'on connaissait dans les années 70, ou même, évidemment, en Inde, de là d'où il vient. Je vous invite à aller le lire, il est très léger, ouais. Il est très sympa.
L'auteur, c'est Zineb Fassi, elle est professeure de yoga et auteur d'un livre, Le Yoga, Nouvel Esprit du Capitalisme.
Bah.
Ça dit tout. Voilà. Alors donc, c'est sorti en 2023.
Il y a la question dans la réponse.
Cet article a été publié par le Diplo, parce que le 21 juin dernier, les Nations Unies célébraient la 9e journée internationale du yoga.
Tiens.
Ça, je ne le savais même pas.
Il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de...
Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc, un deuxième article léger, et là, tu vas pouvoir m'aider encore une fois, Hassan, un article sur l'ongomaille.
Oui.
Alors, c'est l'histoire, en fait, des 50 dernières années, l'histoire d'une communauté, figurez-vous, qui marche.
Et qui marche et qui tient depuis 50 ans.
Hein. C'est incroyable.
C'est incroyable. Je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas comment fonctionnait ces utopies-là, moi, elles me parlent.
Ah bah,
et toi, je pense aussi.
J'ai un adjectif, c'est jubilatoire.
C'est ça le mot.
Honnêtement.
Allez lire cet article, vraiment.
Alors, il nous parle, évidemment, comme d'habitude, il nous faut un historique. Mince, j'ai perdu le nom du gars qui a commencé. Ça, dans les années 70, au début des années 70, qui a une vie complètement incroyable.
Je trouvais ça. L'ongomaille sur les sentiers de l'utopie. Alors, c'est en Provence. Hein, et depuis un demi-siècle, hein, ils se ressemblent. On y travaille beaucoup. On y discute beaucoup également. Les générations se succèdent. Et alors, le Roland Perrault.
Voilà, Roland Perrault. Merci beaucoup. Oui. C'est un personnage haut en couleur. Ah, c'est lui qui a démarré ça. Son idée au départ, ça a été également d'aller en Suisse pour faire ce qu'ils appellent de l'économie de dons. Ça a bien marché, d'ailleurs. Aujourd'hui, ils font plutôt des choses autour du vin bio, du vin naturel. Ils font des pulls en laine naturelle. Enfin, c'est plein de poésie, plein d'idées qui fourmillent, qui jaillissent de partout. Le modèle a ses limites, notamment à un moment, ils disent que notamment les enfants, je ne sais pas pourquoi, ne reviennent pas, les enfants de ces endroits-là, ils partent,
oui, c'est vrai.
Donc ça doit vieillir sûrement, je ne sais pas trop.
Parce qu'il n'y a pas de tablette.
Exactement, exactement. Ah ben alors, les choses qu'il n'y a pas dans cet endroit-là, c'est complètement incroyable. En fait, c'est vraiment la communauté comme on l'a imaginé dans les années 70, sauf qu'elle marche, voilà. Et elle marche toujours. Il y en a de plus en plus. Il y en a en Europe. Ça a essaimé. Alors, les chiffres, je ne les ai pas en tête. Je ne sais plus combien ils sont.
Non, mais vraiment, allez lire cet article et vous verrez également une carte qui vous présente tout ce qui est essaimé à l'international autour de l'ongomaille. Ils ont des coopérations partout, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, et ça fonctionne, parce que ce sont de vraies coopérations. On envoie ceci, on envoie ça.
Voilà.
Et ça se passe de cette façon-là. Donc,
et c'est en ce moment, hein, en ce moment, en France,
bah oui.
L'ongomaille, voulons dire, pourvu que ça dure.
Oui, c'est ça. Et ça fait 50 ans que ça dure.
Voilà.
C'est un reportage, hein, c'est de Anne Jourdain, qui, elle, est journaliste, pas comme la dame d'avant du yoga. Elle y allait, elle y allait, elle a... On fait de la moutarde, on fait du vin naturel, des vêtements en laine de mouton, et on peut y aller. Donc, moi, je pense que je vais y faire un tour.
Ça donne vraiment envie.
Je pense réellement.
Ouais. Alors, le troisième article dont je voudrais vous parler, ça s'appelle « Le livre noir du haricot vert ». C'est un long article également.
C'est oui, c'est vrai.
Voilà, je vous avais promis de la légèreté.
Mais c'est vrai que, en fait, ça s'appelle comme ça, le titre, parce que allez lire également, il y a des tas de choses qu'on ne savait pas, quoi. C'est vrai que moi j'ai appris énormément de choses.
Alors déjà, le haricot est né en Amérique du Sud. Donc il est arrivé en Europe très très tard, évidemment, avec Christophe Colomb. Pas avant. Avant, on ne connaissait pas le haricot.
Non.
Il explique, dans certains articles, on nous explique que... alors évidemment, c'est le serpent à plumes, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a donné ça aux Indiens, etc.
Quetzalcoatl.
Voilà. Ah, merci beaucoup.
Mais très bien.
Merci Victor.
Mm-hmm. Tu parles, toi, c'est quoi ça, c'est comme,
Le serpent à plumes,
oui,
c'est...
Non, mais comme langue, c'est... Je sais que ça se parle du côté Tijuana, mais c'est quoi comme... C'est une langue indienne
Aztèque,
là-bas.
Non, c'était les Aztèques.
Aztèques, ouais. Aztèques.
Voilà, alors il parle des Aztèques, il parle des Mayas, il parle d'un moment où toutes ces civilisations se sont bâties notamment sur une trilogie, enfin c'est sur trois aliments. Il y avait le maïs, le haricot et la courge. Ouais. Et ils expliquaient que les trois donnaient plein de choses très bonnes pour l'alimentation. Et que et les Mayas, les Aztèques, toutes ces civilisations se sont nourries de courges, maïs et haricots. Et ça s'est arrêté. Alors là, je vais très vite, on est d'accord. Hein, si vous lisez l'article, vous allez voir que c'est beaucoup plus documenté que ça. C'est beaucoup plus long. Et, tout ça, ça s'est arrêté. À cause des Espagnols.
Voilà.
Et avec Monsieur Cortés. Enfin, Monsieur Cortés.
Les conquistadors. Les conquistadors qui sont arrivés. Et puis, en plus, après, il y a eu les Américains, quand même, parce que l'article explique bien que.
Ah oui, oui. Alors,
les Américains, eux, sont arrivés, ils ont pillé quand même le truc. Quoi.
Tu vas un peu vite. Parce que Cortés arrive, il décide que tout ça, c'est pas bon. Il va changer tout ça. Et en fait, ça se perd. Le savoir-faire se perd. Et puis, le savoir-être. En plus, se perd aussi. Donc, on va arrêter de manger ces trois aliments ensemble. Et puis, on va retrouver dans un codex au début du 20e, dans le Vatican, au Vatican, on va retrouver des choses qui vont nous parler de justement de maïs, de courge et de haricots. Le Mexique, évidemment, parce que tout ça se passe sur le territoire du Mexique. Le Mexique a à peine le temps de se réjouir que ce que nous raconte Hassan va arriver. C'est-à-dire que il y a un Américain qui va avoir une idée de génie. Après, quand même, l'ouverture des marchés entre Canada, Mexique et États-Unis, il y a un Américain qui va avoir une idée de génie. Il va mettre la main là-dessus. Comment on appelle ça ?
Il va mettre un brevet, c'est ça ?
Un brevet, exactement. Oui, il va mettre un brevet sur le haricot. Et les Mexicains...
Imaginez donc.
Un brevet sur les haricots. Voilà. Les Mexicains... Mais nous, on fait des haricots depuis les Aztèques.
Ben oui,
non, le brevet est américain.
Il met un brevet sur le truc des... Alors, en plus, l'histoire au début, là, parce qu'on n'a pas le temps de la raconter, mais allez voir, quoi, quand...
Quetzalcoatl,
le serpent à plumes.
Voit une fourmi rouge qui porte un grain de maïs.
C'est ça.
L'accompagne jusqu'à une montagne dans laquelle elle disparut par une fissure, se transformant en fourmi noire pour la suivre, et là découvrit un immense trésor de semences variées.
Alors voilà.
Et il y a un connard d'Américain qui met un brevet là-dessus.
Alors, au passage, on apprend un proverbe mexicain qui dit. Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis.
Oui, c'est vrai. Absolument vrai.
Ils ont plein d'humour. Ils vont faire quand même un procès à ce brevet et ils vont finir par le gagner.
Gagner,
ils vont mettre 10 ans, ils vont mettre 10 ans, ils vont perdre 10 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Mexique, ils importent du maïs, ils importent des haricots. Des haricots, je ne sais pas. C'est dit, en tout cas, ils importent des maïs.
Les frijoles.
Et du coup, voilà, l'histoire tourne en rond. Le serpent à plumes se mord la queue. La conclusion de cet article, parce que aujourd'hui, on découvre avec les nouvelles façons de cultiver que figurez-vous, le haricot va pouvoir pousser parce qu'il a, il a besoin d'un piquet, il va pouvoir pousser autour du maïs et que la feuille de la courge va garder la terre fraîche. Mmh. Donc c'est de toute façon un triptyque qui gagne encore aujourd'hui et qu'on retrouve. Donc voilà, moi je vous invite à aller voir, à aller lire cet article qui est absolument...
Dans le monde diplomatique du mois
de d'août,
écrit par Alain Amariglio, qui est ingénieur, entrepreneur, instituteur, auteur. Il a fait des voilà, il connaît bien l'Amérique latine et il aime bien les, enfin il s'occupe de pas mal de choses agricoles également.
C'est très documenté.
C'est très documenté.
Très vraiment, très long. Vraiment.
Merci à toi Pierre, merci, merci Boris, merci Victor, merci.
Merci à toi Sam.
Merci Anaïs de nous avoir accompagnés. Juste derrière, je disais qu'ils étaient qu'ils seraient pas là, mais peut-être en retard, mais ils sont là. Raidon, juste après nous, est-ce que vous êtes prêts, Raidon? Je mets un bout de musique en attendant. Oui, une petite musique de 2 minutes. Est-ce que ça tourne? Ça tourne pas. Bon, voilà. J'étais sûr. Mais en tout cas, il y aura de la musique aussi sur Radio Campus Tour à 21h avec du jazz. Alors, bon truc, je ne comprends pas pourquoi ça tourne.
Et tu parlais de jazz, c'est l'occasion de dire que ressort le film. Alors, il y a quelques séances sur Orléans, et tu déplorais qu'il n'y ait pas assez de musiciens noirs. Là, au moins, il est noir de chez noir. C'est le film de Clint Eastwood, Bird sur Charlie Parker.